Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le podcast Fleur d'avocat pour un épisode solo cette fois. Alors, je vous propose peut-être une introduction parce que je fais comme si vous me connaissiez tous, mais peut-être qu'il y a des nouveaux auditeurs parmi vous. Donc, je suis Lila Louise Maréchaux. J'ai créé initialement ce qui était ce podcast Fleur d'avocat qui ensuite est devenu une entreprise de conseil et de formation sur des sujets de développement de clientèle pour avocats. Et j'ai une deuxième entreprise qui s'appelle Iris et Thémis, qui est un site de diffusion d'offres de recrutement en cabinet d'avocats, donc du recrutement d'avocats en cabinet d'avocats, même si on envisage, et même c'est tout à fait dans les projets de s'ouvrir à d'autres professions du droit. Bref, site de diffusion d'offres de recrutement en cabinet d'avocats qui a la particularité de mettre en avant, de présenter aussi l'équipe qui recrute, de valoriser sa marque employeur, comme on dit, et qui est à peu près le seul site sur lequel vous pouvez trouver des témoignages d'ailleurs de personnes qui travaillent ou ont travaillé pour ce recruteur, qui laisse des petits témoignages pour dire comment c'est et comment ça s'est passé pour eux de travailler avec cette personne. Bref, donc ça c'est pour qui je suis, ce que je fais. Ce podcast Fleur d'avocat, pendant très longtemps, pendant 5 ans, a été un podcast avec exclusivement des interviews d'avocats bien dans leur robe. Alors non, je dis exclusivement, mais en fait, il y a une époque où tous les 5 épisodes, je faisais une interview d'avocat reconverti et j'ai arrêté pour plusieurs raisons. Sur lesquelles je ne vais pas revenir maintenant, et j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Donc 5 ans d'interviews d'avocats bien dans leur robe, d'avocats beaucoup à Paris, mais pas que, tout domaine de spécialité confondu, des individuels, des associés, des hommes, des femmes, tout ça, bref. Et que j'ai décidé de faire évoluer ce podcast en introduisant une fois sur deux, une semaine sur deux, ces épisodes solo. Épisode solo pour plein de raisons et je vous invite d'ailleurs, si vous êtes curieux de la réflexion qui a conduit à faire évoluer le format du podcast, à aller écouter donc le premier épisode solo. Je crois qu'à l'époque on l'a intitulé hors série parce qu'on savait pas que ce serait le premier, on pensait que c'était juste comme ça un truc et puis ensuite on repartirait sur que des interviews. Et voilà, et alors c'est rigolo parce que après avoir écouté cet épisode bilan 2023, projection sur 2024, un avocat m'a écrit, on a échangé quelques emails et il m'a recommandé au passage le podcast Road to 10 Million, je vous le fais avec un accent français, Road to 10 Million. Si vous voulez, avec l'accent, avec un autre accent, qui est un podcast de Théo Lyon, qui est un entrepreneur à la tête d'un groupe d'agences d'acquisition. Voilà. Et je connaissais Théo Lyon, et je l'ai d'ailleurs entendu dans des contenus, peut-être même dans d'autres podcasts à lui, mais par contre, je n'avais jamais écouté ce podcast spécifique où il prend aussi la parole solo derrière son micro. Je suis en train de binger ce podcast depuis quelques temps. Alors je le binge plus parce que je suis complétiste. J'avoue qu'il y en a un certain nombre, mais je ne vais pas faire la critique de ce podcast-là. Voilà, il y en a un certain nombre que je passe assez vite parce que pour plein de raisons. Mais ça a replanté quand même une graine. Je vous raconte tout ça parce que du coup voilà, ça fait partie des graines qu'il a plantées. Et c'est en fait à quel point on s'attache quand on écoute un podcasteur au fait de suivre un petit peu sa vie personnelle. Et autant ces derniers temps, c'est les croquettes sur ma vie perso, alors bien évidemment autre que celles que je glisse, autre que celles qui surviennent dans une discussion avec mes invités, je les introduisais plutôt dans ma newsletter qui était mon format plus privilégié quand je voulais partager des choses sur mon développement entrepreneurial. Et puis c'est vrai que cet email reçu par cet avocat et puis plein d'autres messages m'ont fait dire tiens, en fait peut-être que ça passe bien à l'audio, tout simplement en parlant derrière son micro. Et puis aussi le fait d'écouter ce podcast de Théo Lyon, ça m'a remis cette graine et je me suis dit mais en fait au-delà de cet épisode bilan que j'ai fait, les deux autres prises de parole que j'ai faites en solo, j'ai essayé d'être beaucoup plus voilà, je prends la parole et bam, je vous balance de l'expertise. Alors, bien évidemment, en m'appuyant sur des exemples tirés de ma vie, de mes entreprises et tout, mais pas tellement en mode update de ce qui se passe en ce moment dans la vie de Lila Louise Maréchaux. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, ça marche quand même bien, ça, d'écouter quelqu'un et puis qu'il en profite pour glisser quelques éléments de qu'est-ce qui se passe en ce moment pour lui. Donc, voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas de cette inspiration, où je reviendrai sur un peu qu'est-ce qui se passe à chaque fois. Tiens, vous entendez peut-être, j'étais toute seule et je ne vais plus l'être puisque mon amoureux est en train de rentrer de sa séance d'escalade. Bref, et puis ça m'a ramené aussi, en fait ça m'a rappelé tout simplement, moi au tout début de ma vie d'auditrice de podcast, un des premiers podcasts que j'ai écouté, que j'ai bingé, c'est le podcast de Brooke Castillo qui est une gourou, une de mes gourous, une des personnes que je suis et dont j'admire énormément le travail et qui m'a énormément apporté. Et son podcast, The Life Coach School Podcast. Et c'est pareil, en fait, Brooke, quand on la suit épisode après épisode, en introduction, à chaque fois, elle donne un peu des petites nouvelles. Et en fait, ça fait complètement partie de ce qui fait qu'on s'attache à ce podcast. Donc voilà, tout ça pour dire que, je ne sais pas combien de temps il m'a fallu pour vous amener ça, mais voilà, tout ça pour dire que 6 minutes. Tout ça pour dire que je vous propose dans ces épisodes où je prends le micro, de faire aussi un petit peu de suivi, d'update. Et voilà, et si ça vous saoule, je ne sais pas, peut-être dites-moi. Et si vous êtes trop nombreux à me dire que ça vous saoule, peut-être que j'arrêterai. Voilà, je ne sais pas. Typiquement, avant d'aborder le cœur du sujet d'expertise, aujourd'hui j'ai prévu de vous parler de la collaboration libérale et de la question de ce qu'il y a derrière la rémunération dans une collaboration libérale. Mes petites actualités, qui sont d'ailleurs pas tellement des petites actualités, alors il y a celle du fait que je viens de passer 2h30 au téléphone avec une copine, donc en fait je crois que j'ai déjà la voix cassée d'avoir trop parlé, mais au moins ce sera fait. L'autre actualité, c'est que je vous parle là. Je suis assise devant mon feu de cheminée et je crois que je vais mettre longtemps à ne pas m'émerveiller de ce feu de cheminée chez moi et de la possibilité de temps en temps. Je le fais pas tout le temps parce que sinon c'est pas possible, mais de temps en temps travailler dos à la cheminée. Non, la grosse actualité, c'est que la semaine dernière a eu lieu le dîner des investisseurs dans Iris et Témy. Si vous ne le savez pas, nous avons fait une levée de fonds pour pouvoir investir dans le développement d'Iris et Témis. Et cette levée de fonds, elle a été faite auprès de un peu plus de 30 investisseurs, une majorité d'avocats, mais pas que. Des avocats avec plusieurs profils, il y a des collaborateurs, il y a des associés, il y a des individuels, des cabinets plus ou moins gros, plus ou moins structurés. Donc des profils divers et variés. Et donc, on a fait ce dîner la semaine dernière. C'était absolument trop bien. Levée de fonds, j'en ai parlé dans mon épisode bilan, c'est très pénible, c'est très énergivore, c'est très dur, en fait, à vivre. Et après, quand ça se clôture, il y a évidemment la première récompense qui est tout simplement le fait que on a du cash en plus qu'on n'avait pas avant. Mais là, j'avoue que réunir toutes ces personnes, ça a été un moment assez émouvant. Alors, c'est un peu comme les fiestas fleurs d'avocat. C'est-à-dire que sur le moment, on ne se rend pas trop compte de ce qui se passe. Et c'est après qu'on revient sur ce qui s'est passé. On se dit, quand même, c'était vraiment cool. Et c'était un événement, un moment plein de bonnes ondes. Mais voilà, c'était très chouette de mélanger tout le monde. J'ai été impressionnée de voir la facilité avec laquelle les uns et les autres se sont mélangés, rencontrés, découverts, ont échangé, ont changé de table pour aller faire connaissance avec les autres, parce que c'est vrai que 30 personnes, ça fait du monde. C'était vraiment super. Donc un vrai bon moment. Un moment aussi pour nous, pour leur présenter, on va dire, nos axes prioritaires d'action à venir et pour, d'une certaine manière, leur réexpliquer ce qu'on faisait. Parce qu'en fait, il y en a, on s'est rendu compte qu'ils étaient à fond derrière le projet global, mais que de façon très précise, ils n'avaient pas trop compris comment on bossait. Bref, donc voilà, c'était un vrai bon moment. On repart un petit peu en levée parce qu'on n'avait pas réussi à tout boucler la levée. Donc, on a encore un petit peu d'argent à aller chercher et ce qu'on va faire. C'était bien de pouvoir recharger les batteries avec ça avant de retourner solliciter les personnes qui n'ont pas pu investir en décembre. Alors que, en tout cas sur le papier, elles avaient l'envie et l'intention de le faire. Et quelques nouvelles personnes dont on pense qu'on pourrait leur les onboarder dans l'aventure à nouveau. Alors, j'avoue, le vrai kiff, ça a été quand un de tes investisseurs qui disait alors la levée, machin, comment ça va se passer, qu'est-ce que vous allez chercher comme profil et tout. J'ai dit, on va faire plus de ce qui fonctionne, hein. C'est un peu le concept. Donc, s'il y a des avocats qui veulent encore nous rejoindre, ils sont les bienvenus. Et puis en fait, il dit, mais est-ce qu'on peut remettre un ticket? Est-ce qu'on peut réinvestir? Oui, tout à fait. Vous pouvez tout à fait réinvestir si vous avez envie d'investir plus. Donc voilà. Bref, c'était le moment rigolo et du coup, le moment qui fait dire que c'est vrai que ça incarne vachement quoi, de faire se rencontrer les gens et partager les visions et la dynamique collective, elle insuffle quelque chose que, comme ça, en roadshow, juste chacun en rencontre individuelle ou derrière un Q&A qui a vocation à vraiment se concentrer sur le term sheet et le pacte et les statuts et les trucs hyper juridiques, que derrière, il y a un projet qui est partagé et ça, c'était trop cool. Donc ça, c'était, on va dire, la grosse actu de la semaine dernière. Sinon, j'ai été un peu le nez dans la rédaction des offres et du coup, je suis contente parce que on a acté pour le recrutement d'une... Il se trouve que ce sera une, ça aurait pu être un. La plupart du temps, c'est une. Et notre cas, ça va se confirmer, une assistante qui va me permettre de sortir un petit peu le nez de la partie vraiment rédaction des offres et des portraits et coordination de tout ça. Elle va pas nous débarrasser de ça, mais elle va prendre une partie de la gestion de projet sur ses épaules et d'autres petites tâches. Et ça va nous permettre au global de plus nous concentrer sur les tâches pour lesquelles on a vraiment de la valeur ajoutée. Et voilà. Et moi, j'ai des projets en termes de communication pour Iris et Thémis que je veux vraiment mener à bien. Donc, j'ai hâte de pouvoir m'y coller. L'autre actualité... c'est commun à un petit peu tout, même si je m'en suis plus occupée pour Iris et Thémis que pour Fleur d'Avocat, enfin en tout cas pour mon activité de conseil. L'autre actualité, c'est d'aller chercher de la preuve sociale un petit peu, parce que c'est souvent quelque chose que j'ai négligé. Je fais beaucoup d'enquêtes persona, donc j'échange beaucoup avec mes clients et Margot qui me seconde sur pas mal de choses dans mes activités de conseil et de formation. En fin de formation, elle prenait du temps, enfin je l'ai mandatée pour qu'elle prenne du temps avec mes clients pour faire le point sur ce qui fait qu'ils avaient investi dans la formation, développer sa clientèle, qu'est-ce qu'ils en attendaient initialement, qu'est-ce qu'ils en ont retiré, leur satisfaction. À la fois un point vraiment persona, ce que j'appelle moi le buyer persona, donc le... je vous ferai peut-être un épisode, dites-moi si ça vous branche, un épisode sur le buyer persona. Moi, c'est un sujet que j'adore, mais globalement, c'est ce qui permet de comprendre vraiment quelle est la typologie de clients qui vous achètent des choses, parce que l'idée, c'est d'aller chercher toujours plus de ce type de clients. Donc, il faut en identifier, on va dire, les grandes caractéristiques. Et on ne parle pas que en termes démographiques, on parle aussi d'autres choses. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet maintenant. Forcément, ça, c'est... en faisant ça, entre guillemets, on récoltait des petits verbatims qu'on pouvait utiliser derrière sur les réseaux sociaux et tout, mais jusqu'à maintenant, j'avais pas trop... Enfin, j'ai toujours un peu négligé le fait de demander aux gens de me laisser un avis. Il y en a qui laissent un avis Google, un avis sur LinkedIn, des choses comme ça. Et en fait, c'est mal. C'est mal parce que c'est ce qu'on appelle donc la preuve sociale. Et la preuve sociale, c'est franchement un des leviers de gain de confiance envers ses potentiels clients les plus importants. C'est d'ailleurs pas pour rien que la recommandation, le bouche-à-oreille, la recommandation et encore plus la recommandation par quelqu'un qui a été client d'une entreprise est hyper puissant. Et donc, on est un peu dans cette démarche. de demander ben, voilà, aux gens qui ont recruté via Iris et Témis de nous laisser un avis. Et aussi aux personnes pour qui j'ai travaillé ces derniers temps, même avec Flore d'Avocat, en formation et en conseil, qui m'ont pris de la formation ou du conseil, bah, pareil, de me laisser un petit avis. Et du coup, ça m'amène à donc cette actualité globale. Je vous tiendrai au courant si on avance ou pas. Toujours un peu... Enfin, je pense qu'on est tous concernés, quoi. Le moment délicat où on contacte quelqu'un pour dire « Coucou, est-ce que tu peux me laisser un avis ?» C'est jamais agréable. Et bien évidemment, il y a des moments qui sont meilleurs que d'autres pour le faire et tout, mais quand on se met en mode « Ok, grosse mission, aller chercher des avis », là, on est un peu c'est un peu la grosse salve, quoi. Donc voilà, donc je vous dirai comment ça avance, ce truc. Mais ce qui m'amène à une chose qui est que je vous bassine pas tellement avec le fait de laisser un avis sur le podcast. C'est vrai, j'en fais pas des tonnes là-dessus, mais j'ai tort. Parce que, mine de rien, c'est du temps et c'est de l'énergie que je prends de faire ces épisodes, que ce soit les épisodes solo ou les interviews. Et donc, je vous invite tous à laisser un avis sur Apple Podcast. Donc, 5 étoiles, évidemment. Hein. Enfin, bien évidemment, vous pouvez en mettre moins. Ça m'arrange si c'est 5 quand même. Surtout qu'il est bien, mon podcast, quoi. Mince. Et puis, sur Spotify. Alors, je vais prendre exemple, là, sur Théo Lyon, pour vous incentiver, pour vous motiver à prendre ces 30 secondes qui font que vous allez me laisser une note et un avis sur Apple Podcast et ou juste 5 étoiles sur Spotify, qui est de vous faire gagner quelque chose. Donc là, c'est simple. Le dernier avis que j'ai eu sur Apple Podcast, c'est l'été dernier. C'est Jean Dubarry qu'on remercie beaucoup. Et donc, si vous laissez un avis, là, vous, ou 5 étoiles ou un avis, je ferai le point d'ici 2 semaines et je ferai un petit tirage au sort de une personne parmi toutes les personnes qui m'auront laissé 5 étoiles et un avis. D'ailleurs, je crois que vous pouvez en laisser plusieurs, hein, donc voilà. Et je vous fais gagner une formation en e-learning sur les honoraires. Voilà, j'ai fait toute une formation de, je ne sais plus si c'est 3 ou 4 heures, en partenariat avec SideQuest sur la construction d'une politique d'honoraires, d'une politique tarifaire. Le vrai sujet de cette formation, c'est globalement comment est-ce que vous fixez des honoraires, comment est-ce que vous déterminez et vous fixez des honoraires pour vos clients, pour vos prestations, parce que je sais que souvent vous vous arrachez les cheveux sur ce sujet-là, et donc j'ai essayé de méthodologiser ça, de théoriser ça, de structurer tout ça pour avoir un cadre de réflexion pour poser les choses de manière un petit peu plus rationnelle. Donc voilà, donc si vous laissez un avis d'ici 15 jours, globalement, tirerai au sort. Probablement que je ferai un tirage au sort par mois pour faire offrir cette formation. De temps en temps, peut-être que je changerai de cadeau aussi. Parce que vous risquez, peut-être que vous vous lasserez. D'ailleurs, ça peut être rigolo que vous me disiez ce que vous aimeriez bien gagner, ce que vous aimeriez bien que je vous fasse gagner. Et voilà, donc tirage au sort. Et si vous n'écoutez pas sur Apple Podcast et que vous n'avez pas Apple Podcast, et que du coup vous faites tout sur Spotify par exemple, eh bien vous laissez 5 étoiles sur Spotify. Je ne pourrais pas avoir votre avis. Par contre, si vous prenez une capture écran qui montre que vous avez laissé 5 étoiles, et que vous m'envoyez cette capture écran par Instagram, par LinkedIn, par email, bref, comme vous voulez, eh bien, je pourrais vous compter dans le tirage au sort. Voilà. Donc, allez-y, juste là, 30 secondes. Ça prend pas beaucoup plus de temps. Et moi, ça motive quand même d'avoir des avis, et puis en plus ça permet à d'autres personnes de découvrir le podcast et donc à d'autres personnes de découvrir mes activités, et donc c'est du win-win total. Voilà, donc ça c'était un peu ce que mes actualités du moment. Ça a été de m'occuper beaucoup du fond, parce qu'on a rentré pas mal de clients dans Iris et Témis en mois de janvier, donc m'occuper de leurs offres, aller chercher des avis pour les clients que j'ai eu et à qui j'espère j'ai apporté plein de choses positives. J'espère, enfin je je crois l'avoir fait parce qu'en général, ils sont plutôt contents. Et voilà. Et puis voilà. Et puis c'est tout. Ça, c'est le, on va dire, le gros de l'énergie que j'ai mise. Alors, Théo Lyon, dans son podcast, parle vachement de ses objectifs sportifs. Franchement, moi, je vais pas trop aller sur ce terrain-là, mais j'avais fait une newsletter où je racontais qu'à un moment, je m'étais un peu secoué les puces parce que je suis pas très sportive et je m'étais un peu dit, meuf, c'est pas possible que tu n'arrives pas à te dégager un quart d'heure par jour pour faire un petit peu d'exercice et juste te maintenir en forme et avoir un summer body que tu aimes et puis tout simplement être en bonne santé parce que le sport c'est la santé. Et voilà, j'avais reçu plein de messages, j'avais dit que je m'étais inscrite à une application de feignasse. Et vous avez été plusieurs à répondre à ma newsletter pour me demander les références de mon application de feignasse. Et donc voilà. Et j'ai été quand même relativement assidue à cette application puisque j'ai fait. Alors j'ai pas fait tous les jours, mais en moyenne j'étais à 3 séances par semaine d'entre un quart d'heure et 30 minutes. Jusqu'à ce que il y ait tout le déménagement et tout, et là ça fait un mois que j'ai complètement lâché sur ma routine et c'est mal. Et j'avoue que le fait d'écouter Théo Lyon raconter avec assiduité à quel point est-ce qu'il se bouge le cul pour atteindre ses objectifs sportifs, eh bien en fait ça a quand même un petit peu agi sur mon moral et mon état d'esprit, et donc j'ai prévu de m'y remettre cette semaine, et surtout j'ai prévu de me réinscrire au yoga. J'ai repéré un studio là à 10 minutes de chez moi, à pied, et donc voilà, je vous tiens au courant parce que je suis même pas sûre qu'il y ait encore de la place au cours. Donc j'ai écrit un email à la prof tout à l'heure. J'imagine que j'aurai pas de réponse un dimanche soir, mais j'ai écrit à la prof tout à l'heure pour lui demander si c'était possible de s'inscrire, parce que j'ai vu sur son site internet que là les achats sont plus disponibles. Donc ça se trouve c'est plus disponible parce qu'elle a plus de place. Voilà, bon, on verra. Mais en tout cas, c'est sûr ce que je me remets sur la toute valeur. Maintenant, allons quand même au fond des choses. J'ai envie de dire que c'est 22 minutes d'introduction, mais en fait, c'est pas 22 minutes d'introduction, c'est 22 minutes de un peu comment je vois l'évolution du format du podcast. Et puis ensuite, un petit peu qu'est-ce qui se passe dans ma vie en ce moment. Et puis maintenant, c'est le fond. Donc voilà. Donc. Collaboration libérale et qu'est-ce qu'il y a en face? Alors, je sais plus qu'est-ce qui a été à l'origine une sorte de petit éclair, une petite étincelle de connexion de neurones à un moment dans ma tête, mais j'ai fait ce parallèle entre la collaboration libérale et la facturation des avocats et la notion de forfait. J'arrive. Vous savez comme moi que la collaboration libérale, le contrat de collaboration libérale ne prévoit pas de contrepartie spécifique. C'est-à-dire que globalement, le cabinet s'engage à un certain nombre de choses, dont le fait de rétrocéder des honoraires à un montant qui est un montant fixe. En général, les bonus ne sont pas contractualisés, les commissions d'apport d'affaires non plus. Donc en fait, ce qui est contractualisé d'un point de vue financier, c'est la rétrocession d'honoraires mensuels fixes. Et il y a évidemment d'autres obligations dans le contrat de collaboration libérale, les congés payés, la mise à disposition des moyens pour développer son activité. Donc normalement, vous avez accès à la salle de réunion, vous pouvez solliciter l'assistant ou l'assistante, si on a une, pour vos dossiers perso, enfin toutes ces choses-là. Bien évidemment, voilà, l'ordinateur du cabinet que le cabinet vous met à disposition, vous pouvez l'utiliser pour votre propre développement aussi. Enfin, vraiment, voilà, vous pouvez utiliser les moyens mis à disposition par le cabinet pour le développement de votre propre activité. Et en fait, ça s'arrête à peu près là, quoi. Puis après, bon, on en revient au serment. Et les grands principes de la déontologie qui, du coup, régissent aussi votre relation avec votre collaborateur slash votre collaborant. Et en face de, entre guillemets, ce que doit le cabinet, donc de l'argent et des moyens, eh bien, en fait, il n'y a rien qui est très précisé. de telle façon que, en théorie, on n'est pas censé penser la collaboration libérale sous forme de temps. Enfin, je dis de telle façon, mais rien n'est précisé. Et donc, la contrepartie à cette rétrocession d'honoraires et ces différentes choses que doit le collaborant à le cabinet collaborant à son collaborateur, la contrepartie à ça, elle n'est pas précisée, elle n'est pas quantifiée. Alors, il y aurait plusieurs manières de quantifier les choses. Hein. La première manière, c'est le temps, de dire, ben voilà, en échange de cette rétrocession d'honoraires et de cette mise à disposition des locaux et des moyens pour développer et des semaines de congés payés et tout, vous me devez tant d'heures de travail. Une autre manière de fonctionner, ça pourrait être de fonctionner par projet, par exemple, en échange de cette rétrocession d'honoraires et de ses moyens, etc. Vous me devez X assignations, X conclusions, X audiences, fonctionner plutôt au projet plutôt qu'au temps passé. Et cette absence de précision de la contrepartie, moi, c'est quelque chose que j'aime bien souligner et soulever parce que je trouve que c'est quand même assez cocasse, en fait, dans une profession où globalement on apprend à la fac et ensuite on apprend dans la pratique que un bon contrat est un contrat dans lequel les obligations réciproques sont claires. Et moi, en tant qu'entrepreneuse, globalement, quand j'ai travaillé avec un avocat pour faire des contrats avec des partenaires, bien évidemment les CGV, même s'il faut que je revoie mes CGV parce qu'elles sont plus du tout d'actualité, mais voilà, les CGV et tout type de contrat en fait qu'on fait avec des prestataires, des partenaires, des fournisseurs, des trucs, des machins, à chaque fois ce qu'on me dit c'est globalement il faut que les obligations, ce qui est exigé de toi soit clair et ce que tu peux exiger de l'autre partie en face soit tout aussi clair. Et voilà, et normalement, et ça c'est les apports, on va dire, du legal design et du langage clair, et appelez ça comme vous voulez, normalement, en plus, un bon contrat est un contrat qui est clair, c'est-à-dire qu'il est lisible, c'est-à-dire que quand on lit une clause, il n'y a pas 15 manières de l'interpréter, et c'est assez évident ce qui est souhaité, ce qui est prévu dans une stipulation donnée, dans une clause donnée. Donc, c'est vrai que moi, je trouve ça très cocasse dans cette profession qui est censée être la profession par excellence de la clarté des obligations réciproques et qui vend ça à ses clients. C'est-à-dire que, globalement, les avocats vont vous dire, oh là là, tous ces entrepreneurs qui sécurisent pas leurs relations avec leurs clients et avec leurs fournisseurs. Et en fait, derrière, c'est une grosse insécurité juridique et tout. Et qu'est-ce qu'ils disent ? Il faut que vous fassiez des CGV, il faut que vous fassiez des contrats. Et dans ce contrat, il faut que vous prévoyiez de façon précise comment va se dérouler la relation et quelles sont les obligations réciproques. Donc voilà, c'est ce qu'ils prêchent. Hein, et dans le principal, dans un contrat qu'ils utilisent au quotidien à partir du moment où ils recrutent, eh bien, c'est le flou le plus absolu. Et j'avoue que je trouve ça assez, assez cocasse, assez étonnant, en fait, que ce soit si communément admis. Et j'en avais parlé une fois sur, je ne sais plus, c'était peut-être LinkedIn, et quelqu'un avait dit, mais en plus, quand bien même on voudrait préciser les choses, c'est-à-dire ajouter au contrat type de collaboration libérale et préciser en quoi consiste la contrepartie par le collaborateur, eh ben, ça se trouve, on se retrouverait à être retoqué par l'ordre qui contrôle les contrats de collaboration libérale et qui, en fait, potentiellement, contrôle que celui-ci juste répond bien au template qui est visé. Alors ça, je ne sais pas si c'est juste un soupçon ou si c'est effectivement, mettons qu'un cabinet précise avec ses collaborateurs que globalement, la collaboration libérale voilà en quoi elle consiste. Et contre cette rétrocession, vous nous devez voilà, X actes de tel type ou vous nous devez X heures de travail. Eh bien, je sais pas. Ça se trouve, ce serait complètement admis et ça passerait. Et d'ailleurs, ce serait intéressant de... ce serait intéressant de le savoir, de le voir, de le savoir. En tout cas, je serais très curieuse de voir comment est-ce que ça passerait. Si jamais c'est votre cas, d'ailleurs, que vous avez un contrat de collaboration qui va au-delà du contrat type et dans lequel votre contrepartie, enfin la contrepartie du collaborateur a été spécifiée et précisée, je suis assez curieuse de le voir et qu'on en parle parce que je trouve que c'est un sujet hyper intéressant. À la fois d'un point de vue RH, évidemment, et à la fois d'un point de vue juridique, en fait, tout simplement. Donc voilà, donc, vous avez cette collaboration libérale où la contrepartie n'est pas définie. Alors, dans cette absence de définition, comme je vous l'ai dit, il y a une absence de définition par le temps. C'est-à-dire, un collaborateur, en théorie, il n'y a pas de temps de travail. En théorie, en l'absence de cette précision, la collaboration libérale ne se pense pas en temps. Et elle n'est pas censée se penser en temps. C'est aussi quelque chose que je trouve quand même franchement très conceptuel, hein, de ne pas penser les choses en temps. Peut-être que je reviendrai là-dessus un jour dans un autre épisode solo, mais je trouve ça quand même compliqué de ne pas à un moment avoir pour référentiel le temps. Mais soit... Et c'est ce qui fait que, globalement, à chaque fois que sur un réseau social, je dis, ben voilà, je demande sur un, enfin, dans un contrat de collaboration libérale à temps plein. Alors, c'est pas censé se penser en temps, mais en fait, quand même, hein, y a des petites notions de temps, parce qu'on va parler de temps plein. Et d'ailleurs, et puis de temps partiel, de 4/5, de 3/5. Mais du coup, si c'est pas censé se penser en temps, qu'est-ce qu'un 3/5 ou un 4/5? Enfin bref, vous voyez le truc. Moi, ça, c'est une question, j'avoue, autour de laquelle je tourne. Et j'adorerais avoir des réponses et j'en ai pas. Et j'ai pas l'impression qu'il n'y en ait. Voilà. Il y a des espèces de petits trucs par-ci, par-là qui veulent dire qu'on peut pas complètement s'affranchir de la notion de temps. Mais en même temps, on précise pas, donc bon, tout ça est assez flou. Donc voilà, donc c'est à la fois pas censé se penser en temps, mais il y a quand même la possibilité de penser temps plein et temps partiel et tout. Bref, à chaque fois que j'ai posé la question dans un temps plein de collaboration libérale, quel est le temps que le collaborateur libéral est censé pouvoir allouer au développement de son propre cabinet, et donc pas à son patron, enfin pas à son client principal qui est le cabinet d'avocat pour qui il collabore, et bien à chaque fois en commentaire, vous allez avoir une salve de personnes qui vont venir me faire remarquer que j'ai rien compris, parce que globalement, le contrat de collaboration libérale, ça se pense pas en temps, il n'y a pas de temps de travail, c'est pas des salariés, donc il n'y a pas de temps de travail. Alors, je ne suis pas du tout une spécialiste du temps du droit social, hein, et encore moins de la question du temps de travail en droit social, mais j'ai quand même l'impression que même, enfin je veux dire, dans le salariat, évidemment, ça se pense en temps, mais pas tout le temps. Et en fait, notamment avec cette histoire de forfait jour, et je crois comprendre que d'ailleurs, le forfait jour, il n'économise pas complètement la question du temps de travail. Question qu'il faudrait que je pousse pour pouvoir en parler avec beaucoup plus de précision. Mais voilà, ma compréhension quand même des choses pour avoir regardé 2-3 trucs en diagonale, c'est que c'est pas parce qu'on est au forfait jour que c'est YOLO et qu'en fait on peut faire bosser son salarié sans aucune considération de notion de temps de travail. Bref. Revenons-en à nos moutons. Donc la collaboration libérale, comme le soulignent à foison les avocats, et notamment comme il m'est fait remarquer à chaque fois que je soulève un petit peu cette question-là, de la contrepartie et le cas échéant de la question du temps. En tout cas, ce que le collaborateur libéral doit pouvoir, entre guillemets, enfin bref, en fait, on ne peut pas complètement s'affranchir de la notion de temps. Je suis désolée, dans le monde dans lequel on vit, qui est quand même régi Enfin, ben voilà, il se trouve que le temps fait partie des unités de mesure de beaucoup de choses, quoi. Eh bien, je trouve ça lunaire de dire qu'on peut s'affranchir de la notion de temps, mais pourtant, c'est ce qui est avancé dans la profession d'avocat. Et alors, ça me fait, en fait, et c'est là où est venue mon étincelle de connexion de neurones, en fait, ce que je trouve très cocasse, c'est que si on oublie la collaboration libérale et qu'on demande au cabinet d'avocats et qu'on demande à un avocat comment il facture, et qu'en fait, on pense facturation, et ensuite qu'on aborde le sujet du forfait, vous allez avoir des avocats qui vont vous dire bah en fait le forfait je déteste ça et j'en fais pas parce que en fait on sait jamais combien de temps vont nous prendre les choses et donc voilà, donc en fait j'aime pas les forfaits parce que je sais pas combien de temps va me prendre le truc. Et donc, voilà, le fait de dire bah tel accompagnement, ça coûtera tant, quel que soit le temps que ça va me prendre, bah en fait, ils aiment pas ça. Et donc, ce qui est en fait finalement assez drôle, c'est que vous avez un refus d'obstacle de beaucoup de personnes dans la profession sur la notion de forfait, c'est-à-dire un montant fixe pour couvrir un truc avec une incertitude autour du coût. Et le coût chez un avocat, et comme pour toute profession de conseil en réalité, c'est à titre principal le temps qu'il va passer à produire son expertise. Et donc ça, c'est pas OK et ça crée des résistances et voilà. Mais en fait, c'est complètement OK d'avoir en fait un énorme forfait, parce que la collaboration libérale finalement c'est un énorme forfait quoi, c'est un énorme forfait parce que bah d'ailleurs c'est un forfait dont on ne connaît pas la délimitation et donc ça m'a, c'est-à-dire qu'en fait vraiment au-delà de l'aspect juridique de voilà, un bon contrat c'est des obligations réciproques qui sont claires et nettes pour tout le monde, tout ce qui fait que derrière aussi, même les bonnes pratiques de facturation, elles sont pas... Et on ne les retrouve pas non plus dans la collaboration libérale, puisque aujourd'hui, c'est pareil. En fait, un avocat a l'obligation de fournir une convention d'honoraires qui précise qu'est-ce qui va être couvert par l'intervention de l'avocat et comment est-ce que cette intervention, telle que cadrée, comment est-ce qu'elle va être facturer, c'est-à-dire qu'est-ce que le client va devoir à l'avocat pour cette prestation. Est-ce qu'il va devoir, en fonction du temps passé, donc dans ces cas-là, il faut définir entre guillemets le temps passé, enfin l'estimation, enfin tout simplement juste c'est au temps passé, donc c'est X euros, et donc si je travaille 15 heures, c'est 15 fois X, le montant du taux horaire. Est-ce que c'est un temps passé capé avec une limite en haut? Est-ce que c'est un temps passé avec un minimum, une forme de franchise? Est-ce que c'est un forfait pur et donc c'est un montant et puis quel que soit le temps que prend le fait d'arriver à un résultat donné ou le fait de mener telle procédure ou telle opération, eh bien, ce sera le même montant. Bref, mais en tout cas, toutes ces questions-là, elles doivent être détaillées. Et qu'est-ce que ça recouvre? Et si on passe hors scope, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un autre forfait? Est-ce que c'est du temps passé? Est-ce que quoi? Bon, là, chacun a sa tambouille, de façon plus ou moins vertueuse d'ailleurs. Mais en tout cas, ça, normalement, c'est obligatoire, en fait, dans la profession d'avocat. Une convention d'honoraire, elle doit prévoir qu'est-ce qui va être fait par l'avocat et quelle va être la méthode de détermination du prix de son intervention. On ne le retrouve pas non plus dans la collaboration libérale pour les questions que je vous ai dit tout à l'heure. Et donc, en fait, voilà, j'ai trouvé ça très cocasse, en fait, de me rendre compte, de faire ce parallèle, non pas juste entre la collaboration libérale et, on va dire, si on est dans un régime salarié, juste le droit du travail, et à quel point est-ce que ça cadre ou pas. Mais tout simplement de ramener sur le libéral pur, parce que, en fait, et peut-être que c'est ça le petit chaînon manquant dans ce que je suis en train de vous raconter et qui en fait est le chaînon dans ma réflexion, c'est que dans les commentaires que vous allez trouver sous mes posts quand je dis ben voilà la collaboration libérale, enfin le temps pour le cabinet versus le temps pour sa propre activité, et les personnes me disent non mais la collaboration libérale ça se réfléchit pas en temps, et puis en général elles en rajoutent une couche sur le côté. En fait, vous n'avez rien compris, ce n'est pas la même posture. Le cabinet, c'est votre client. Et donc, bah voilà, vous n'êtes pas le salarié de votre cabinet. C'est votre client. Et donc, ce n'est pas la même posture. Et vous êtes un entrepreneur. Et voilà. Et moi, à la limite, cet argument, il m'irait. Mais en fait, il ne me va même pas. Tout simplement parce que dans leur posture d'entrepreneur, et quand les avocats sont amenés à réfléchir leur prix, à poser leur prix et à faire une proposition d'intervention pour un client, ces mêmes personnes, à quoi est-ce qu'elles vont à 99% se référer pour déterminer le prix de leur intervention? C'est leur temps de travail. Elles vont faire, si elles font un forfait, elles vont le faire sur la base d'une estimation du temps qu'elles vont passer à faire la chose en question. La facturation à l'heure, qui est quand même encore largement répandue, ça n'est rien d'autre que juste calquer sa posture d'entrepreneur, en fait, juste de vendre du temps. Et de vendre du temps sans le caper, quoi. Vous voyez, juste. Alors après, on fait du write-off et tout, machin, mais ça, c'est encore un autre sujet. En tout cas, facialement, on s'en réfère au temps. Pareil pour la question de tous les modes de réflexion des avocats sur ce qu'ils vendent. Je connais en fait, somme toute, assez peu d'avocats. Il y en a quelques-uns, hein, mais il y en a assez peu qui ont une réflexion avec un business model un peu plus global et qui savent qu'ils sont, entre guillemets, à perte sur certains trucs, mais qui vont gagner par rapport à d'autres trucs. Enfin bref. Et mine de rien, leur première unité de réflexion, quand ils sont dans cette posture entrepreneuriale avec leurs propres clients, c'est leur temps. Voilà. Et donc, ce parallèle, j'avoue, je l'ai trouvé cocasse, en fait. Ça me semble d'une évidence telle que, du coup, je... je trouve ça encore plus cocasse. Et je comprends pas comment j'avais pas moi-même fait ce propre parallèle entre eux, mais c'est quand même fou que cette profession qui est la première à dire pour les collaborateurs qu'ils devraient pas penser en temps parce que ils sont pas salariés et que donc ils doivent pas penser en temps, ils doivent penser en autre chose. Et le cabinet, c'est un client, et donc c'est une autre posture qui, posture manifestement, devrait... conduire à faire abstraction totale de la notion de temps. Mais en fait, quand ça les concerne pour leurs propres clients, là, pour le coup, c'est complètement OK d'être focus et d'avoir pour unité de référence pour la détermination de ses honoraires le temps. Voilà, c'est ça que je voulais partager avec vous, planter cette graine de réflexion. Je ne sais pas si ça va vous être très utile en vrai. Non, mais disons-le. Je ne sais pas si ça va être très actionnable, parce que comme je vous le disais en tout début d'élucubration, je ne sais même pas si ce serait OK pour un cabinet, enfin si le contrat de collaboration serait validé par l'ordre dans l'éventualité où le collaborateur et le cabinet se mettaient d'accord sur cette contrepartie de façon précise, que ce soit en un volume horaire, que ce soit en un volume d'actes, mais en tout cas se mettre d'accord sur cette contrepartie à cette rétrocession d'honoraires. Je ne sais pas si ça passe. Deux, on va encore probablement me dire que je suis une syndicaliste gauchiste pro-collaborateur. Mais en fait, et ça c'est quand même autre chose que je trouve fou, c'est que moi quand je pose ces questions-là, on m'assimile à ça, à une syndicaliste gauchiste pro-collaborateur, juste parce que je trouverais en fait sensé d'avoir un contrat qui régit les relations entre l'une et l'autre partie, à cette relation qui soit clarifiée sur certains points et en fait sur ce point qui me semble assez essentiel en fait, mais pas que la question du temps, juste la question de la contrepartie. Qu'est-ce que le client, qu'est-ce que le cabinet client d'un collaborateur achète à son collaborateur? Et en fait c'est fou parce que c'est penser que la seule personne qui a intérêt à cette clarté, c'est le collaborateur. Et c'est faux, parce que en réalité, même d'un point de vue managérial, le cabinet comme manager a tout intérêt à avoir de la clarté sur ce qu'il, en fait, qu'est-ce qu'il peut exiger de son collaborateur, de façon claire, nette, précise et incontestable. Qu'est-ce qu'il peut attendre de lui? Qu'est-ce que le collaborateur lui doit? Et donc quelle configuration? Et c'est pareil, j'en ramène aux avocats qui disent à leurs clients, mais en fait, faites des contrats, et des contrats qui soient clairs et précis. C'est pas une recommandation qui est faite que aux clients quand ils sont, entre guillemets, partie faible à la relation. Et bien évidemment, quand on est partie faible, on a plus ou moins de marge de négociation et c'est plus ou moins facile de négocier un contrat. Mais de façon globale, cette recommandation d'avoir des obligations réciproques qui soient claires, elle est faite aux entrepreneurs et aux entreprises, et, voilà, indistinctement de s'ils sont partie faible ou partie forte. Et l'argument, c'est justement ça, c'est de dire, mais en fait, vous protégez, pas juste dans, enfin, des deux côtés, chacun doit pouvoir exiger de l'autre des choses qui sont claires, nettes et précises. Et donc, des deux côtés, c'est bien, ça apporte de la sécurité juridique et c'est bon pour votre business de pouvoir de le spécifier et de l'avoir spécifié. Et donc voilà, donc ça c'est pareil, c'est, je vous apporte c'est un autre rapport d'étonnement que je vous fais, c'est cet étonnement sur qu'est-ce qui fait que le fait de finalement inviter à réfléchir la question de la contrepartie et de la précision dans le contrat de collaboration libérale, pourquoi est-ce que ce contrat devrait s'affranchir des règles pour tout autre contrat, et qu'est-ce qui fait que le fait de dire, mais en fait, préciser les choses, c'est vu comme étant quelque chose de pro-collaborateur, alors qu'en réalité, je trouve que c'est aussi un outil de management derrière, parce que vous, comme collaborant, d'une certaine manière, vous apportez aussi de la sécurité vous apportez aussi de la sécurité à votre business dans ce que vous pouvez exiger de votre collaborateur. Et donc je pensais que j'allais terminer, mais ça me fait tirer ma réflexion, et je pense que c'est encore dans le thème, donc voilà. Ça me fait penser à, pareil, un autre post que j'avais écrit, peut-être un petit peu provoquant, mais l'était-il vraiment ? Où je disais, la collaboration libérale, mais merci d'être là à 9h30 le matin. J'ai pas de réponse à la question, est-ce que c'est ok ou pas d'avoir un horaire fixe de travail quand on est collaborateur? J'ai tendance à penser que et en fait quand j'avais mis ça, il y avait des collaborants qui à juste titre avaient dit, mais oui, mais moi il faut aussi que je puisse m'organiser et que je puisse m'organiser avec m'organiser avec mes clients. Et que je puisse, entre guillemets, imposer une certaine forme d'organisation à mon collaborateur pour la bonne marge de ma structure, quoi. Et en fait, c'est vrai que les clients, ils appellent globalement entre 9h30 ou entre 9h et telle heure. Et du coup, j'ai grosso modo besoin que par défaut, mon collaborateur, ce soit normal que j'attende de lui qu'il soit présent à ces horaires-là. Et je suis tout à fait d'accord avec ces collaborants. Et en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Il y a juste un besoin de eux pouvoir s'organiser, mais comme toute entreprise, en fait, qui a besoin de s'organiser, savoir quand est-ce que les ressources humaines dont elles s'entourent sont disponibles, quand est-ce qu'elles ne le sont pas, quand est-ce qu'il faut prévoir des extras ou quoi ou qu'est-ce. Et en fait, ce besoin d'organisation, c'est un besoin hyper légitime du point de vue du management. Et de l'organisation d'une structure collective où il y a plusieurs personnes qui travaillent ensemble et où il y a plusieurs parties prenantes à satisfaire. Et à défaut de répondre à cette question stricto sensu par le salariat, puisque ça pourrait être une réponse, a priori, si vous avez besoin d'horaire, peut-être que la collaboration salariée, ce serait bien. Mais à défaut de répondre là-dessus, est-ce que ça pourrait être précisé, ce genre de choses? Est-ce qu'on pourrait concevoir un contrat de collaboration libérale où la contrepartie, c'est d'être disponible globalement tel jour, tel jour, tel jour, de telle heure à telle heure? Et en fait, on achète, je ne sais pas moi, un forfait d'heures sur une certaine plage horaire. Est-ce que c'est pensable? Et je n'ai pas la réponse à cette question. J'aimerais bien l'avoir. J'ai l'impression que ça n'intéresse pas. Pas grand monde. Enfin, je pense que ça intéresse beaucoup de monde, mais que beaucoup ont aussi pas vraiment intérêt à ce qu'il y ait des réponses à ces questions. En tout cas, personne n'y travaille de façon trop acharnée. Mais au-delà de est-ce que oui ou non c'est possible et tout machin, ce qui, on va dire, là en tout cas dans cette prise de parole-là, dans ce solo-là que je vous propose, est presque secondaire. Ce que je voulais dire, c'est que le fait de pousser à ça, à cette clarté, et d'inviter à penser cette clarté, et d'inviter à ne pas faire une exception dont personnellement je ne comprends pas, vraiment je ne comprends pas qu'est-ce qui justifierait une exception qu'est-ce qui fait que le contrat de collaboration libérale serait un contrat si spécial qu'il échapperait à cette bonne pratique de base d'obligation réciproque claire et puis de prestation, enfin de périmètre d'une prestation contre un prix défini. J'ai perdu le fil de ma pensée, et que le fait d'inviter à ça, c'est tout autant pro-collaborant que pro-collaborateur, parce que je suis intimement convaincue qu'il y a évidemment, je pense, un besoin du côté des collaborateurs d'y voir plus clair dans ce qu'ils sont censés pouvoir faire côté développement personnel, de clientèle personnelle, et ça inclut, je suis désolée de vous le dire, ça inclut une réflexion de temps, parallèlement à ça, un besoin tout aussi légitime de la part du management et du collaborant de pouvoir, en fait, avoir de la visibilité sur la façon dont ils s'organisent. Et ça implique, encore une fois, on vit dans un monde quand même régi par le temps, et ça implique du coup un minimum de réflexion sur la temporalité des choses. Voilà ce que je voulais vous soumettre comme réflexion aujourd'hui. Encore une fois, je suis navrée parce que je ne suis pas sûre que ce soit hyper actionnable. Dans le terme, quelque chose qui puisse tout de suite vous puissiez tout de suite activer un levier. J'ai quand même tendance à vous dire, si vous êtes collaborant, je pense que c'est des questions qui sont bonnes à éclaircir avec les personnes que vous recrutez, et vice versa si vous êtes collaborateur, c'est des choses qui sont bonnes à éclaircir si vous en avez la possibilité. Et je pense très sincèrement que le fait de clarifier ces obligations réciproques serait vertueux et limiterait un bon nombre de conflits qui sont juste liés au fait que finalement personne ne sait trop ce qu'il doit à l'autre, et personne ne sait trop ce qu'il peut exiger de l'autre, et que donc ça crée des grosses incompréhensions et des problèmes de communication et donc des conflits, et c'est quand même dommage. Voilà, écoutez, j'en ai terminé là, ça fait un petit peu moins d'une heure que je vous parle. Waouh, j'ai été hyper raisonnable. Et je vous dis, n'oubliez pas, mettez un avis. Et potentiellement, vous gagnerez donc une formation. Pas développer sa clientèle. Une formation sur les honoraires. E-learning, 100% e-learning. voilà, win-win, vous m'aidez à vous m'aidez à développer, à faire connaître ce podcast, eh bien, je vous aide à, je sais pas, à, bah, en l'occurrence, à penser vos prix et à fixer vos prix et à négocier vos prix aussi. Et voilà, et c'est une relation tout à fait gagnant-gagnant, et donc c'est formidable. Je vous souhaite une excellente soirée, je vous dis à bientôt la semaine prochaine pour une interview. Ah oui, si, je précise, j'ai mis un peu de temps à me réorganiser là au début de l'année pour plein de raisons, et je pense d'ailleurs si vous avez écouté mon podcast solo, le bilan 2023, vous savez. Je vais peut-être louper, enfin je vais peut-être avoir trois interviews d'hommes qui vont se suivre, ou deux interviews d'hommes qui vont se suivre, parce que j'ai une interview d'une femme que finalement je ne vais pas diffuser. Elle était pas assez confortable avec l'échange. Ça arrive exceptionnellement, mais quand ça arrive, voilà, moi je ne suis pas là pour publier quelque chose avec lequel la personne n'est pas confortable. Donc voilà, et j'ai pas un stock d'interviews de femmes extraordinaires. Et donc là, il faut que je me remette en production d'interviews, à contacter des gens et tout. Donc voilà, donc vous m'excuserez de... par avance, enfin, je vous remercie de votre compréhension sur le fait que j'enchaîne deux avocats de suite sans respecter ma sacro-sainte règle de la parité stricte dans ce podcast, et je me rattraperai évidemment. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à très bientôt. Salut.